Baruch Abba. Donc avant de donner la parole au Rav Yossi Amar qui est venu spécialement du 77, qui a fait de la route pour nous voir. On le remercie. Donc c'est le Rav que j'ai connu moi-même à mon jeune âge, qui a été cette idée, cette inspiration de la Shlichut, qui veut dire transmettre la Torah et la Chassidut dans les endroits les plus loin. Et dans des endroits un peu plus loin que Paris, on va dire un peu pas comme ça, parce que le 77, ça a l'air proche, mais c'est loin aussi, en quelque sorte. Et donc, il a été une source d'inspiration pour nous, en tant que jeune Bachour, qui a participé à des Shabbats à la maison. Et c'est un monsieur aussi qui a eu beaucoup de choses à partager avec nous ce soir. Donc, il va nous ce soir sur le thème de la conférence que vous avez pu voir.
Il est bien le thème.
Bah, au Hachem, sur la joie. Et on aura l'occasion d'étudier, de comprendre des choses et bien entendu de se réjouir. Je voudrais juste rappeler que ce soir le cours il est dédié pour la Refouah Shlema de Aaron Moshe Ben Ziwa et Johanna et Mordechai. Baruch Hashem, comme ce soir on a pu entendre des miracles, que c'est déjà une moitié d'un miracle, c'est encore beaucoup plus. C'est le début des bonnes nouvelles. Début des bonnes choses et j'espère qu'il n'aura plus rien du tout.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Un plaisir de se rencontrer en cette date importante. Vous savez que ce soir, c'est une date aussi importante. C'est ce qu'on a fait avec des grands érudits. Ce soir, c'est le 7 Adar. 7 Adar, c'est le jour de la naissance et le jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Donc c'est assez important, c'est très bien qu'il y a un long débat, parce que c'est le premier Hadar, le deuxième Hadar. Mais on va dire que ça sera le deuxième Hadar pour le premier Hadar, on sait que plusieurs livres disent que c'est le premier Hadar. Le thème de ce soir, c'est un thème très intéressant, et c'est le thème bien sûr de quelle est la force et quel est le pouvoir de ce mois. Quel est le pouvoir de ce mois d'Hadar? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a un mois et cette année 60 jours, 60 jours qui viennent et qui transforment et qui font en sorte que tout peut se transformer. Que ce soit pour les personnes qui ont besoin de refouah shlema, que ce soit pour nos frères et sœurs en Israël, pour que les otages reviennent rapidement, que nos soldats réussissent dans leur mission de pouvoir éradiquer les forces du mal, et que tous les blessés soient guéris. Alors c'est ce qu'on va voir justement, on va essayer de comprendre ensemble quelle est cette notion du mois d'Adar, et quelle est cette notion de soi, pourquoi on a 60 jours cette année. On sait que la structure du calendrier juif, c'est une structure particulière, puisque l'année elle est faite de 12 mois lunaires, et on sait que ça fait environ 354 jours, pour être exact, 12 fois 29,5. Et donc, pour pouvoir avoir une synchronisation avec l'année solaire qui est 365 jours.25, on a besoin d'avoir un 13e mois tous les 2 ou 3 ans, qui est en général un cycle de 19 ans. Et c'est ce qui fait que comme ça, on rattrape le décalage entre le lunaire et le solaire. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a besoin de rattraper le décalage? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Parce qu'on sait très bien que la Torah nous a demandé de faire la fête de Pessah en mois de printemps. Shamor et Chodesh Aviv. Et si jamais on ne rattrape pas le décalage, puisque les printemps, les périodes, c'est en général le soleil solaire, ça va faire qu'au fur et à mesure des années, on va faire Pessah en hiver, voire en été, etc. Comme il se passe avec le Ramadan et comme il se passe avec d'autres fêtes. C'est la raison pour laquelle on a en général le rattrapage avec ce double mois. Une année bissextile avec le mois d'Adar, qui est en général le dernier mois du calendrier, puisqu'on sait très bien que le mois de Nissan, c'est le premier mois. Chodesh HaRishon, puisqu'on est sorti d'Égypte, c'est là la première mitzvah que Dieu a demandé au peuple juif, faire un calendrier. En 1992, c'était la même période, c'était aussi deux mois d'Adar. Et on va voir comment le Rabbi nous avait parlé à l'époque, je me rappelle comme aujourd'hui, sur cette importance de ce mois. Comment c'est une telle année qu'on a la chance d'avoir 60 jours? Quelle est la particularité des chiffres 60? Alors je sais qu'ici on n'a personne qui a 60 ans, mais on va voir ensemble que le chiffre 60 dans la Torah a énormément de, pas seulement de sens, signification, et surtout un pouvoir particulier. Maintenant, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails de 60, pourquoi le mois d'Adar? Pourquoi on n'a pas doublé le mois de Tishri? Pourquoi on n'a pas doublé le mois de Kislev? Pourquoi particulièrement le mois d'Adar? On va voir ce que le Mechilta nous dit. Midrash. Shamor et à Pesach la Aviv. Torah nous dit qu'il faut faire la fête de Pesach pendant le printemps. Comment on fait une chose pareille? Iber et Adar, on a l'habitude de doubler le mois d'Adar. Parce que si jamais on l'a pas fait, qu'est-ce qui va se passer avec Pessah? Viens le Midrash, je te demande la question, et qu'est-ce que tu fais si tu as oublié de doubler le mois d'Adar? Est-ce que tu doubles le mois de Nissan? Rabbi Ishmael, il dit, oui, on fera un Nissan Sheni. On fera un deuxième mois de Nissan. Mais la Torah, elle t'a dit, Rishon Ulachem. Mois de Nissan, c'est le premier mois. Shamor et Chodesh Aviv, de là on apprend que quoi? Que c'est toujours le mois qui est proche du printemps, que c'est ce mois qu'il faut doubler. Ça, c'est le mois d'Adar. Mais on sait très bien que dans la Torah, tout est précis et tout est méticuleusement organisé. Ça n'existe pas dans la Torah que les choses sont faites par hasard. Comme j'ai dit, il y a exactement 32 ans. En 1992, en 5752, c'était exactement ce Shabbat, Shabbat Trouma. Et dans ce Shabbat, c'était le premier Shabbat du mois d'Adar, Adar 1. Elle a bien parlé longuement sur qu'est-ce que veut dire ce pouvoir de 60 jours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a la chance de pouvoir, en 60 jours, éradiquer toutes les forces du mal? Quelle est la signification du chiffre 60 dans la Torah, monsieur le rabbin? Qui veut dire?
Ça a rapport avec les Mishnayot.
Dites-moi.
Il y a 60 traités de Mishnayot.
Et donc? Il y a 150 psaumes, on aurait pu faire 150 jours. Magnifique. Bon, on va voir ensemble. Alors, on va rentrer dans la cuisine ce soir. On va essayer de rentrer dans la cuisine ensemble. Si vous voulez, je peux me rapprocher de vous, comme ça sera plus facile, au lieu de retourner la tête. Qu'est-ce qui se passe dans une cuisine juive? Pour comprendre ça, on va voir une histoire. Une femme qui raconte, ce soir, jeudi soir, les femmes préparent Shabbat. Et une femme qui raconte l'histoire suivante en disant, elle prépare la bar mitzvah de son fils. Et elle a préparé une grande marmite de soupe au poulet, soupe de poulet, soupe de viande, pour le repas de Shabbat, Shabbat Chatan. Elle raconte cette histoire, elle appelle le rabbin en disant, l'enfant, il rentre de la maison, de l'école, il est très excité, il se prépare pour sa bar mitzvah, et il a décidé de réchauffer une pizza dans le micro-ondes, ou dans le toaster par exemple, et il a réchauffé la pizza dans un papier aluminium. Fait qu'il a fini de manger, il a décidé de faire une boule avec le papier d'aluminium pour le jeter à la poubelle. Magnifique, tout va bien jusqu'à là. Donc on va dire que c'est une histoire normale qui se passe dans toutes les cuisines, mais là le drame commence. C'est quoi le drame? Le drame, c'est qu'à la place de jeter le papier aluminium dans la poubelle, il a jeté le papier aluminium et il a raté la poubelle. Et à la place, le papier aluminium a atterri dans la marmite qui était en train de chauffer avec le bouillon, la soupe au poulet. Et ça, c'était la maman qui a préparé le repas de Shabbat pour inviter tous les invités, etc., etc., comme un ange d'histoire. Et donc, la maman, elle s'énerve et elle commence à crier au rabbin au téléphone en disant... On a essayé de se débarrasser du papier d'aluminium avec la pizza dessus. Mais le moment qu'on est arrivé dans la marmite pour enlever l'aluminium, on a vu que la pizza avec le fromage qu'il a laissé est tombée dans la soupe. Et juste l'aluminium, on a réussi à sortir. Et donc elle s'est dit, est-ce que maintenant on doit jeter la soupe à la poubelle? C'est la question. Est-ce que maintenant la soupe, on doit la jeter à la poubelle? Est-ce qu'on doit commencer à tout repréparer pour la bar mitzvah? On vient de se fatiguer, elle pique une crise, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Ou bien elle demande la question, qu'est-ce qui se passe avec ma cuisine? Des fois, ça arrive que quelqu'un, par exemple, il a pu faire un café avec du lait, du vrai lait, pas du lait aux amandes ou du lait de soja, comme ça existe aujourd'hui. Et il est tombé dans la cuisine où il a trébuché, le verre avec le café s'est renversé un peu sur la marmite où il est en train de cuisiner la pkeila, la dafina, et va savoir ce que tu veux avec de la viande à l'intérieur, qui est sur le feu, et il s'est dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Du lait qui a été mélangé avec la viande. Est-ce que je dois jeter la dafina? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire avec tous les invités qui sont venus pour se préparer pour Shabbat? Et est-ce qu'à la plage, je vais me suffire seulement avec du pain et avec du poisson ou autre chose? Dans ces deux cas-là, qu'est-ce nous dit la halakha? La halakha nous dit qu'on doit faire un calcul simple pour savoir quel est le volume de l'étage qu'il y a. Mais c'est ça le sujet qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe dans la quantité du volume qu'il y avait dans le papier aluminium, on va dire, et les résidus, les restes de lait qu'il y avait dans ce papier par rapport au montant ou à la quantité de soupe qu'il y a dans la marmite. Et quand on calcule le volume de lait qui est tombé dans la pkeila ou bien dans la dafina, etc., par rapport à la quantité de viande et la quantité de ce qu'il y avait dans la marmite, c'est clair que s'il y avait 60 fois plus, à ce moment-là, il n'y a pas de quoi craindre. Donc le rabbin a dit au téléphone à madame, ne vous inquiétez pas, votre dafina elle est cachère, votre pkeila elle est cachère, le repas elle est cachère. Continuez à préparer, la vie est belle, vous avez à manger pour la bar mitzvah, et la vie continue. Ça, c'est la notion de qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, batel beshishim, annulée dans 60. Maintenant, d'où vient une chose pareille? La Mishnah Chulin, page 96b, le Rav Israël m'a dit qu'on a affaire avec des grands érudits qui apprennent la Gemara, la Mishnah, nous dit que c'est pas seulement que le manger non cachère est interdit. Mais n'importe quel goût qu'il aurait pu donner éventuellement à manger cachère, ça, ça leur est interdit. C'est ce qu'on appelle dans le terme halachik, tam keikar. Je veux dire que donner du goût, c'est considéré comme le manger lui-même, comme un manger non cachère. Et donc, si un manger non cachère tombe dans une marmite avec du manger cachère, ou bien même un manger cachère, quelque chose de laitage qui tombe dans quelque chose de viande, à ce moment-là, ça peut éventuellement rendre non cachère le plat, parce que c'est un mélange de lait et viande. Et donc, on va appliquer cette règle de tam keikar, qui veut dire, même si j'ai enlevé la partie non cachère ou j'ai enlevé le laitage de la marmite de viande, si jamais ça a donné du goût à la marmite, automatiquement, je peux manger la marmite. Et ça fait que, si jamais de l'autre côté, ça n'a pas donné le goût, le goût du non cachère ou le goût du laitage n'est pas resté dans la marmite, alors le produit, il est permis, parce qu'il est considéré batel, il est considéré annulé. Tout ça dans la notion de 60. Maintenant, la question que tout le monde demande, comment tu peux savoir s'il y a du goût ou pas si tu ne l'as pas goûté?
Oui.
Hein?
On fait appel à...
Alors, 60, c'est ce que la Torah nous a dit par rapport aux, ce qu'on va dire, aux règles diététiciennes. Ça, c'est ce que la Torah nous a dit. Mais on sait très bien que le goût non cachère ou le goût de laitage, par exemple, il est annulé dans un 60e. Ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch Yerudea, le Siman 98, basé sur la Gemara Chulin, page 97. Alors, on va en général évaluer, on peut évaluer si on a 60 fois plus de manger cachère ou de viande par rapport au lait. Et on va savoir que si à 60 fois plus, automatiquement, le goût n'a pas été détecté et c'est permis de manger. Maintenant, si c'est moins que 60, ça on peut l'évaluer tout de suite en sachant si c'est une petite marmite ou si c'est un grand morceau de lait qui est tombé à l'intérieur. À ce moment-là, en général, ça doit être que le non cachère ou le lait, c'est 1,6% plus que qu'est-ce qu'il y a dans la marmite. À ce moment-là, le mélange n'est pas cachère. Même si tu as enlevé le repas non cachère, ça a laissé un goût à l'intérieur et on ne peut pas en profiter. Ça, c'est les détails techniques. La même chose quand on parle de lait et viande. Comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est une pizza qui est tombée dans une marmite de viande ou du lait, le pourcentage, ce sera toujours 1/60. Et donc, s'il y a moins de 60, on ne peut pas l'utiliser. Si c'est plus de 60, s'il y avait plus de 60 de viande ou plus de 60 de produits cachers, à ce moment-là, on peut l'utiliser.
Mais on parle de lait quand c'est pas fait de façon intentionnelle.
On y arrive, bravo. On y arrive. On a affaire avec des gens intelligents, on n'a pas des gens qui font ça exprès. On va y arriver à ça. Maintenant, la question, elle est, d'où les Chachamim sont arrivés avec ce chiffre de 60? Pourquoi ils ont inventé le chiffre 60? Pourquoi ils n'ont pas dit 75? Pourquoi ils n'ont pas dit 55? Il y avait certainement des Tunisiens à l'époque. Pourquoi ils ont cherché à dire 60? Qu'est-ce qu'il y a dans 60? Le Chachamim Tosfot dans la Gemara nous dit la phrase suivante. C'est quoi l'idée de 60? Parce que c'est fascinant de voir qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui on n'est pas à l'époque de la Gemara, on voit que même aujourd'hui on considère que 60 fois ça annule totalement le goût et aujourd'hui c'est tellement répandu. Alors qu'à l'époque, c'était pas forcément quelque chose de connu, mais c'est ce que la Gemara Tosfot nous dit. C'était quelque chose que les Chachamim nous ont évalué en disant que 60, ça annule, moins de 60, ça annule pas. Très bien. Et là, je reviens à ce qu'a dit M. le Rabbin, comment il s'appelle?
Israël
Wagi. Il y a plusieurs, il y a beaucoup de rabbins ici. Vous, comment vous vous appelez?
Abraham.
Si la nourriture non cachère était mélangée dans une marmite de ragoût, dans un rapport de, par exemple, 1/50, on a dit que l'ensemble de la marmite de ragoût est considéré comme non cachère. Maintenant, si une partie du ragoût tombe ensuite dans une autre marmite de nourriture, dans un rapport de 1/3, par exemple, alors, malgré que le ragoût soit plus d'un 60e de cette marmite, la quantité d'issour qui vient du produit non cachère est inférieure à un 60e. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, la bonne question qui est, il y a divers cas où on n'applique pas du tout cette règle de bitoul, on n'applique pas du tout cette règle d'annulation. Dans quel cas? Les chachamim parfois ils te disent, afilou be'elef lo batel. On peut pas l'annuler même dans 1000. Même s'il y a une quantité de 1000 fois plus, c'est pas annulé. Ces éléments non cachères ou mélanges ne sera jamais annulé. Par exemple, on a aujourd'hui ce fameux exemple, quand tu crées un produit particulier. Un exemple classique qu'on a aujourd'hui avec la présure. C'est celui qui fabrique du fromage. Il sait très bien que sans présure, on n'a pas de fromage. Par conséquent, si le lait est 60 fois la présure, à ce moment-là, le produit fini n'est pas cachère.
Tant bien même que la caillette soit du veau
et exactement.
De la viande.
Un autre exemple, c'est un ingrédient non cachère, il est à vider l'étam. Qu'est-ce que ça veut dire à vider l'étam, hein? Qu'il a été fait pour donner du goût. Depuis le départ, c'est pas qu'il est tombé par hasard, ça se rejoint à ce que le Rav Abraham a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu l'as ajouté, par exemple, comme un agent aromatisant. À ce moment-là, ça interdira le mélange, même si l'interdiction, le issour, il est inférieur à la quantité d'un 60e. Pourquoi? Parce que cet élément de non-cacheur a la capacité de transmettre le tam, a la capacité de transmettre le goût. Très bien. Et comme ça, on peut rentrer dans d'autres détails, mais on n'est pas en train d'apprendre un cours de cacheroute ce soir. C'est juste pour commencer et terminer cette parenthèse de 1/60. Le Talmud, il continue. Et ça, c'est dans la Gemara Chulin 98a avec Tosfot. Et il te dit que cette halakha de Shishim, puisque c'est important de comprendre cette notion pour pouvoir comprendre c'est quoi la ramification par rapport au mois d'Adar 60 jours, il te dit qu'on apprend ça de la halakha avec un sacrifice du Nazir. En te disant que le Nazir, le Nazira, qui est dans le temple, avait l'habitude d'amener un sacrifice. Il y avait le din qui s'appelait Zroa Beshela, la pâte intérieure du bélier, après qu'elle a été cuite ensemble avec le bélier. Le bélier pouvait être mangé par le Nazir, même s'ils avaient été mangés, cuits ensemble avec le Zroa. C'est quoi le problème du Zroa? C'est tout ce qu'on va faire le Seder de Pessah. Et le Zroa, il appartient au Cohen. Donc comment un Nazira peut manger quelque chose qui n'est pas Cohen et il peut manger quelque chose qui officiellement appartient au Cohenim? Et la réponse, elle est que comme le bélier, il est 60 fois plus grand que la cuisse du bélier, de là, on dérive le compte Shishim 60, puisque c'est 60 fois plus grand, pour ça, c'est annulé, il peut en manger, etc. Toutes ces lois de bitoul, d'annulation dans la 60e sont très complexes. C'est pas le sujet, comme je dis ce soir. Mais c'est pour avoir une notion de où est venue cette idée que quelque chose de mal ou quelque chose de mauvais peut être annulé dans un 60e. Maintenant, comment ça marche? La réalité, elle est que comment tu peux savoir que tu manges une keila ou tu es en train de manger une dafina ou tu es en train de manger un produit avec de la viande? Comment tu peux savoir s'il y a du goût de lait à l'intérieur ou pas? Tu n'es pas censé le savoir. La vérité entre nous, je ne pense pas que quelqu'un il a un palais tellement prononcé qu'il peut reconnaître si c'est un 60e ou pas un 60e, s'il y a un goût de lait ou pas à l'intérieur. La réponse, elle est que la Torah, elle te dit, quand tu as 60 fois plus, alors la substance impure, elle est neutralisée. Plus que ça, elle devient un morceau et une parcelle du produit cachère. Pas seulement elle est considérée non existant, pas seulement elle est considérée qu'elle n'existe pas, mais plus que ça, cette substance impure, elle est considérée qu'elle se transforme en quelque chose de cachère. Et donc, ça fait plus partie de quelque chose de non cachère, c'est plus problématique. C'est pas juste que tu as du café au lait qui est tombé dans la dafina, par exemple. C'est que ton café, il est devenu une partie de la dafina. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la force de 60. La force de 60, c'est quoi? C'est pas seulement que ça annule le goût. Ça transforme le goût. Pas seulement que ça n'a pas transformé l'entité de la chose en soi, mais du non-cachère, c'est devenu cachère. Et maintenant, on va comprendre quelle est la puissance du mois dans lequel on vient de rentrer il y a quelques jours, qui est le mois d'Adar. Comme on a dit que cette année, on a la chance d'avoir un mois d'Adar qui a 60 jours. Et on va comprendre quel est l'essence de ce mois. Comment se fait-il que la Megillat Esther, qu'on va lire si Dieu veut dans un peu plus d'un mois, le chapitre 9, verset 22, te dit « Ve'achodesh asher ne'epach mi'agon le'simcha me'vel le'yom tov » Un mois qui s'est transformé de deuil en joie, un mois qui s'est transformé d'angoisse, un moment de bénédiction. En quoi ce mois s'est transformé? Pourquoi ce mois s'est transformé? Quelle était la cause de ce qui a fait que le mois entier s'est transformé? On n'a jamais vu que Pessah, parce qu'on a la fête de Pessah dans Nissan, on te dit que le mois s'est transformé. On n'a jamais vu que Hanouka, parce qu'on a eu la fête de Hanouka dans le mois de Kislev, on n'a jamais dit que le mois s'est transformé. Alors pourquoi dans le mois d'Adar, tout d'un coup, la Megillah te dit, le mois qui s'est transformé. En quoi le mois? Pourquoi ça serait un mois qui se transforme? Parce qu'il y a une fête. Pas seulement il y a une fête, Pourim, c'est la fête la plus courte du calendrier, c'est un jour. Parce qu'il y a un jour de fête dans le mois, pour ça le mois se transforme. Viens la Gemara Ta'anit. La Gemara Ta'anit, page 29. La Gemara Ta'anit te dit la phrase suivante. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. La Gemara te dit que dès que rentre le mois d'Adar, On doit rajouter dans la joie. Et la Gemara te dit que Hadar, ce n'est pas un mois normal. Plus que la joie, elle vient, à part le fait qu'il y a eu cet événement, bien sûr, de Pourim, mais il y a ici quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier, c'est que c'est la joie de la transformation. Une joie d'avoir été transformé l'amertume en joie, transformé les forces négatives en forces positives, et c'est devenu tout d'un coup une lumière. Cette nature transformative du mois d'Adar est reflétée par ce contexte que la Gemara te dit que c'est le mois le plus joyeux du calendrier. Et on voit que cette phrase n'a pas été écrite dans le traité Megillah, qui parle des lois de Pourim, mais dans le traité de Ta'anit. Le traité de Ta'anit, c'est le traité qui nous parle des jeûnes, voire des pires jeûnes du calendrier. C'est très bien que quel est le jour le plus noir du calendrier ? Le 9 av. Le 9 av, on a l'habitude de jeûner et de pleurer la destruction du temple. Quand on regarde ce passage dans la Gemara, on nous dévoile que les Chachamim ont dérivé de cette idée du 9 av, la joie du mois d'Adar, la joie de Purim. La Torah, la Megillah, la Gemara d'abord, elle te parle de ce qui s'est passé dans ce jour du Tisha B'Av, le jour le plus noir du calendrier. Le jour qui marque la destruction du premier temple. Mais avant ça, le fait que les explorateurs, ils ont pleuré en vain. À cause de ça, il y a eu la destruction du premier temple, du deuxième temple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'expulsion des Juifs de Gush Katif. Tous les malheurs du peuple juif se sont passés le 9 av. Très bien. Après cette longue discussion du 9 av, vient les Chachamim et te disent, Mishenichnas av, memaatim besimcha. Quand rentre le mois de av, il faut diminuer dans la joie. Après vient Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shilat, il te dit au nom de Rav, que Shemizdichnas Av, de la même manière que quand rentre le mois de Av, on doit diminuer dans la joie. Tu dis de la même manière, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quand arrive le mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train d'apprendre un parallèle. Puisque le mois d'Av, il faut diminuer dans la joie. Pour ça, quand arrive le mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie. Et moi, j'allais te dire, pourquoi tu dois comparer les deux? Quoi tu dois dire? Puisque la dernière fois tu étais à l'hôpital malade, alors aujourd'hui tu n'es plus malade, tu dois faire encore plus de sport. Quel rapport? Quel rapport tu dois faire du sport parce que tu étais malade avant? Aucun rapport. Même si tu n'étais pas été malade, tu dois faire du sport parce que tu dois faire du sport. Pourquoi on dit tu dois être encore plus joyeux parce que le mois d'Av t'a diminué la joie? Comme s'il y a un parallèle entre les deux. Et ça a l'air pas seulement ça, ça a l'air que la Marelle vient te dire que c'est exactement la même chose. Mois d'Av tu diminues, mois d'Av tu rajoutes. Ce Shabbat, Shabbat Trouma, comme je dis, il y a 32 ans exactement, 1992, c'est 1752. Rabbi l'a expliqué, c'est quoi cette force et c'est quoi cette puissance de 60 jours? C'est quoi la puissance du mois d'Adar et c'est quoi cette puissance de transformer un événement qui est tellement indésirable, ou même un événement destructif, ou même quelque chose de si grave, en événement joyeux, un événement duquel on peut tous en bénéficier? Adar est capable, le mois d'Adar est capable de prendre une expérience négative
et de la rendre positive.
Pas seulement la rendre positive, la transformer en double positivité. C'est pas juste que si le négatif était, on va dire, à une puissance 10, le positif devient puissance 10. Non, ça devient puissance 20.
100. Ah.
Puissance 100, on va tout de suite arriver pourquoi. Maintenant, pourquoi Adar a cette capacité de faire une chose pareille? C'est un catalyse, c'est une possibilité de transformer la plus pire des malheurs, la plus pire des événements noirs, la plus pire des événements tristes, la plus pire des points négatifs que quelqu'un peut se rencontrer dans la vie et le transformer en événement positif. Le seul des mois, comme on l'a dit tout à l'heure, qui devient un mois de 60, c'est le mois d'Adar. Comme Adar a cette transformation joyeuse, le mois d'Adar a cette force, comme on l'a vu tout à l'heure dans la Halakha, d'avoir cette force d'annuler toutes les mauvaises choses. Comme on l'a vu tout à l'heure, que 60 est capable de tout annuler, annuler n'importe quelle chose. Cette force de transformation de choses indésirables ou destructives, c'est une force qui appartient seulement au mois d'Adar et à aucun autre mois. Ces 60 jours, ils ont une telle force, une telle énergie positive, que n'importe quelle chose qui se passe dans ces 60 jours peut être redéfinie comme on est un tremplin pour la joie, pour grandir, pour évoluer, pour amener la lumière. Et ça, ça crée ce qu'on appelle ce bitul beshishim. Ça crée cette annulation dans 60, transformation de tout ce qui se passe dans notre vie, qu'on peut trouver que ça amène du stress, l'anxiété, et on peut s'en débarrasser à 100%. On a l'opportunité de pouvoir transformer ça en tant que repas totalement kasher, comme l'a dit là par rapport à la halakha. Même si tu penses qu'il y a quelque chose de non kasher qui est tombé à l'intérieur, le fait que les 60e, ça a totalement annulé et transformé. Ça transforme l'amertume en douceur, ça enlève tout ce qui est impur, ça le devient pur, Et ça, c'est la puissance qu'a ces 60 jours du mois d'Adar. Ça, je vais raconter une histoire. Beaucoup ici, parmi nous, étaient déjà nés en 1940. Un jeune couple. Bonsoir, bonsoir. Un jeune couple, ils s'embarquèrent dans leur première, dans leur lune de miel. Ils viennent de se marier. Ils ont décidé d'aller en voyage. Ils ont décidé d'être aventurés et d'être joyeux. Ils ont décidé de louer une cabane dans le lac des Buttes-Chaumont. 1940, je ne sais pas si c'était déjà ouvert, mais certainement. Et ils ont décidé de louer une cabane dans les Buttes-Chaumont pour 3 nuits, en espérant raviver leur romance et leur affection. Mais ils se rendirent par compte qu'ils auraient le privilège de recevoir la visite d'un visiteur spécial qui souhaitait se joindre à eux pendant leur lune de miel. Ce visiteur, c'était le pique-bois. Vous avez entendu parler d'un oiseau pareil? Le pique-bois, c'est un oiseau qui a un pic flamboyant, bruyant à l'extérieur de leur cabane, tenait le couple éveillé toute la nuit. Et lorsque la pluie battante commença, ils apprirent grâce aux nombreuses fuites ainsi qu'à leur couverture et oreillers trempés que l'oiseau gênant avait percé des trous dans le toit de la cabane. Le mari voulait tirer sur le petit vaurien, mais sa femme ne lui a pas permis. La nuit suivante, leur pic revint. Et il est maintenant éveillé encore une fois à nouveau toute la nuit. Et la troisième nuit, il ne persiste pas. Pour toutes les fins pratiques et toutes les perspectives pratiques, cela a été un grand échec. Une lune de miel qui était misérable. Ce qui était censé être le plaisir de leur vie, le plus romantique, d'aller dormir 3 nuits dans une cabane, dans un bois, avec la nature, etc., s'est avéré comme une expérience désastreuse. Ça ne pouvait pas être pire. Pourtant, sur leur chemin de retour à la maison, le couple décida de penser autrement. Voilà ce qu'ils se sont dit. Nous avons eu une lune de miel incroyablement réussie. Maintenant, c'est à nous de comprendre comment. La femme suggéra à son mari, un animateur, de faire un dessin animé sur l'oiseau. En effet, ce jour-là, Woody Woodpecker naquit. Le célèbre dessin animé de Walter et Gracie Lantz fut créé en 1940 pendant leur lune de miel, à cause de ce pic qui faillit détruire leur lune de miel. 50 ans plus tard, lorsque le couple fut interrogé sur quelle était la meilleure nuit de leur vie, ils répondirent, c'était la nuit dans la cabane où le pic a percé un trou dans notre toit. Cette nuit-là nous a rendus riches, célèbres, prospères et heureux. Quelle était la vérité objective? Est-ce que c'était une lune de miel négative ou positive? Est-ce que c'était une bonne expérience ou une expérience horrible? Et la réponse, elle est, ça dépend la façon avec laquelle on perçoit les choses. Ils auraient pu décider que c'était une lune de miel misérable, et ainsi ça aurait été. À la place, ils décidèrent autrement. Ils décidèrent que la meilleure chose de leur vie, c'est ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est ce qui fut. Ce couple a compris la notion de ce qu'on vient d'expliquer, Batel Beshishim. Et avec ça, chers amis, on va comprendre comment pouvoir devenir joyeux. Que c'est facile à dire, 60 jours de joie, tu te mets en mode joie, pas tout le monde est capable de sortir dans la nuit avec un poste sur les épaules et mettre la musique à voix haute et commencer à se mettre à danser. C'est pas tout le monde qui fait une chose pareille. Et on sait très bien que dans la société, beaucoup de gens ont des soucis, beaucoup de gens ont des problèmes d'anxiété. Les gens, ils se soucient de ce qui se passe en Israël avec nos soldats. Encore aujourd'hui, encore hier, des soldats dans Kiryat Shmona, à Tzfat. Donc les gens disent, mais comment tu veux que je me mette en mode joyeux? C'est quoi? C'est arrive le mois d'Adar, arrive le premier Shabbat d'Adar, je dois commencer à danser, et si j'ai pas envie? Tu veux pas ordonner à quelqu'un de devenir joyeux. C'est un mode que quelqu'un doit d'abord à l'intérieur de lui devenir joyeux, après commencer. Tu veux pas forcer quelqu'un, viens, mets-toi joyeux. C'est pas un coup de magie. Alors qu'est-ce que ça veut dire devenir joyeux? Viens, l'Agmara le dit. L'Agmara te dit pas de rajouter dans la joie. L'Agmara te dit que tous les points, comment devenir joyeux pendant le mois d'Adar, par ça qu'on rajoute les pratiques par lesquelles on devient en mode joie. Et c'est pour ça que l'Agmara te laisse sans instruction particulière. Quand l'Agmara te dit, elle te dit pas, fais telle et telle chose. Il n'y a pas d'ordre particulier quoi faire. Dans le discours de Shabbat, il y a 32 ans, Parashat Truma, 1992, ça veut dire que dans ces 2 mois, c'est à chacun d'entre nous le devoir de tout faire pour ajouter dans des choses qui vont le mettre en mode joyeux. Ramener de la joie, rajouter de la joie pour lui-même, rajouter de la joie pour ses enfants, rajouter de la joie pour sa femme, rajouter de la joie pour les gens autour de lui. Et il a suggéré, par exemple, que même, il a fait une suggestion que les parents puissent rajouter encore plus de joie à leurs femmes, à leurs enfants. Alors, il a donné un exemple. Parfois, tu as des parents qui se sentent détachés, qui ne sont pas forcément présents. Et le mois d'Adar, c'est un mois dans lequel ils doivent se sentir beaucoup plus connectés, beaucoup plus présents. Montrer à leurs enfants beaucoup plus d'affection. S'engager dans beaucoup plus d'activités qui va rajouter la joie, qui va rajouter le bonheur. Et automatiquement, leur vie va devenir une vie beaucoup plus joyeuse. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun d'entre nous sait qui nous sommes. Et on sait très bien, est-ce qu'on a les moyens et est-ce qu'on est équipé avec la force d'être joyeux ou pas. Alors, le mois d'Adar, c'est le mois dans lequel on doit se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui m'amène déjà de la joie dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux? Pourquoi je serai heureux aujourd'hui? Je parlais avec quelqu'un hier, et il me disait, vous savez, monsieur le rabbin, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas du tout en mode joyeux. Je vois pas qu'est-ce qui se passe de bien aujourd'hui. Comment je peux devenir joyeux avec tout ce qu'on entend, les amis? Je fais, écoute, tu t'es réveillé ce matin. Tu as ouvert les yeux. Tu marches sur deux pieds. Je dis, merci Dieu. Commence à danser. Tu as besoin de raison de plus pour danser. Tu as besoin de raison de plus pour être joyeux. La première des choses, nous, le peuple juif, on est schizophrène des remerciements. Je lève le matin, la première des phrases qu'un juif, il dit, Modé ani lefanecha. Pourquoi le répéter tous les jours? Vous savez, je t'ai dit une fois, vous savez l'histoire avec le couple, on raconte à chaque fois. Après 20 ans de mariage, la femme est venue voir le rabbin, elle a dit qu'elle veut divorcer. Elle m'a dit pourquoi. Elle fait parce que, depuis le mariage, il m'a jamais dit qu'il m'aime. Je lui ai dit, va savoir, peut-être il est pas intéressé à moi. Et le rabbin qui appelle le mari en lui demandant qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que tu ne dis pas avec la femme qu'il aime. Et il dit, écoute, sous la choupa, je lui ai dit, une fois, si ça change, je lui ferai savoir. Ça devrait répéter tous les jours.
Pas besoin de deuxième problème.
Et ça, c'est le problème qu'on a, c'est qu'on se rend même pas compte quand on fait la prière tous les matins, quand on dit moderni tous les matins. Pourquoi la Torah nous demande de recommencer chaque matin ce même rituel, toute la première partie des psukei des imbra, de la tefila qu'on dit, jusqu'à la amida, c'est encore une fois de louange à Dieu, encore une fois au doul Hashem, encore une fois de remerciement, encore une fois on répète. Ça y est, je t'ai déjà dit hier, je t'ai déjà dit avant-hier, je t'ai dit au début de le dimanche. Qu'est-ce que j'ai besoin de répéter ça tous les jours? Bien, la Torah, elle veut que nous, on prenne conscience. Modéani lefanecha. Je te remercie de m'avoir rendu mon âme. Vous savez la fameuse histoire avec un livreur de courses qui s'appelait M. Silverman, qui venait livrer les courses chez la mère du rabbi, la rabbinite Hana. Une fois, il lui a demandé, elle n'était pas forcément religieux. Une fois, il lui a demandé, quelle est la prière la plus importante, puisque je ne suis pas quelqu'un qui prie tous les jours. Est-ce que vous pouvez me dire pour le rabbi, c'est quoi la prière la plus importante de la journée? La mère du rabbi, la rabbinite Hana, lui a dit, écoute, quand mon fils, le rabbi, il venait visiter sa mère tous les jours. Il viendra, je lui demander la question. Il est revenu deux semaines après avec des courses. Elle lui a dit, j'ai une réponse pour toi. J'ai demandé au rabbi, quelle est la prière la plus importante? Le rabbi a répondu, Modé ani lefanecha, melechai vekayam, shechezat, abin, nishmati, bechemla, rabba emunatecha. Le fait de se lever le matin, de pouvoir ouvrir les yeux, marcher sur deux pieds. Le rabbi Israël a dit tout à l'heure, il est aumônier de l'hôpital à côté, je suis aumônier des hôpitaux dans 77. Tout celui qui visite les hôpitaux régulièrement, et c'est ce qu'on voit. Quand tu sors d'un patient, et tu sais que tu as la chance d'être sur deux pieds, respirer, sans forcément avec des entubés pour pouvoir manger, pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire quoi que ce soit, qu'est-ce que tu veux de plus? Danse de joie. Alors, les gens peuvent se poser la question, mais quels sont les moyens réels qui peuvent m'amener la joie dans ma vie pour les prochains 2 mois, les prochains 60 jours? Ou bien, qu'est-ce qui me retient d'être joyeux tout ce temps-là? Qu'est-ce qui est dans ma vie qui peut me reconnecter avec la joie? Quelles sont les choses concrètes qui peuvent m'amener la joie? Vous savez ce que la Gemara nous dit? Et là, la Chale ramène que pour les femmes, un jour de Yom Tov, un mari doit aller acheter des bijoux, aller acheter des habits, etc. Pour un homme, on dit que c'est en mangeant de la viande et en buvant du vin. Et tout le monde demande la question, pourquoi pas l'inverse? Pourquoi la Chale n'a pas dit que pour un mari, c'est pour un homme, c'est de s'acheter des habits et des bijoux, pour une femme, la viande et le vin? Va savoir, on peut pas faire un tour de table ici pour demander à chacun qu'est-ce qui le réjouit le plus. Mais je sais pas si quelqu'un va pas être d'accord avec le fait que quand quelqu'un sait qu'il y a une atmosphère joyeuse dans la maison, automatiquement tout le monde est joyeux. Quelqu'un peut se demander la question, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai passé mon temps récemment? Est-ce que je vais m'assurer de faire en sorte que le mois d'Adar, ça soit un mois de joie, ou ça sera un mois comme tout le reste? Et la réponse numéro 1, c'est que ça dépend de chacun d'entre nous. La Gemara t'a pas donné des critères comment devenir joyeux. La morale te dit, ça dépend de toi. Si tu décides d'être joyeux, tu deviendras joyeux. Si tu décides d'être mélancolique, tu ne seras pas joyeux. Très bien. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quand la Chachamim nous dit dans la Gemara que dès que commence le mois d'Adar, tu dois devenir joyeux, ça veut dire que le mois d'Adar, le fait même d'être joyeux, c'est déjà une mitzvah. Explique le Rabbi, on ne parle pas ici seulement d'apprendre la Torah, faire les mitzvot, faire ce qu'il faut. Mais le fait même de te mettre en mode joie, tu pries, fais-le avec joie. C'est très bien ce qui est écrit dans le Chumash, la Parasha Kitavo. 98 malédictions, pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. La Torah ne te dit pas parce que tu n'as pas fait ce que Dieu demande. Tu peux être le juif le plus religieux sur terre. Tu peux faire les choses les meilleures sur terre. Mais si tu ne le fais pas avec joie, c'est comme si tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va sortir. Quoi, c'est la pause musicale?
Non, il y a une deuxième commande.
Deuxième commande. Ok. Allez, fais-le. Tout le monde connaît la fameuse phrase qu'on a l'habitude de dire. Mitzvah, Gedola, tout le monde connaît la chanson. C'est quoi cette chanson? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande mitzvah d'être joyeux. Que veut dire être joyeux? Tout le matin, dès que tu commences à te filer, tu commences à préparer au chemin. Ifdu et Hashem, besimcha, servez Dieu avec la joie. C'est la mitzvah la plus simple d'un côté et de l'autre côté aussi la plus dure. Parce que, demande à n'importe quelle personne, quelle est la mitzvah la plus simple à faire? Ça veut dire de se mettre à danser. Je ne sais pas s'il y a des Breslev ici.
Ferme la
porte. Il y a des gens qui ont l'habitude de se dire Breslev ou qui fréquentent, qui sont à danser sur des camions, danser dans la rue, danser dans les aéroports. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire H24. Mais la joie fait partie de leurs ADN. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas Breslev n'est pas joyeux. Mais quelle est cette idée de devenir joyeux? Apparemment, les gens disent c'est facile. Se lever tout le matin pour prier, pas si facile. Donner la tzaka, pas si facile. Mettre les tefillin, jeûner kippour. Ça, c'est des mitzvot que ça me coûte quelque chose. Ça me demande un certain effort, ça me demande un certain service. Me mettre à danser, me mettre à taper les mains, c'est facile, c'est joyeux, ça ne demande rien. De l'autre côté, la mitzvah d'être joyeux, c'est la mitzvah la plus dure à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit ici que quelqu'un va prendre une bière ou un verre de vodka, quoi que ce soit, ou un bon repas, ou de la musique, ou va voir un bon film, comme ça, il va être joyeux. On parle d'une joie interne. On parle d'une joie profonde. On parle d'une joie sincère. La Bible a l'habitude de dire pas avec juste de remonter les joues et faire un faux sourire. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire croire qu'ils sont joyeux. Et il y a des gens qui, à l'intérieur d'eux, sont normalement brisés. Donc, être joyeux, c'est quelqu'un qui a une tranquillité interne. C'est quelqu'un qui sait se lever un peu du parterre, qui l'oublie ses soucis. Et pour ça, c'est aussi une des mitzvot les plus dures à faire. Parce que tu as des gens qui peuvent faire les mitzvot techniquement parlant avec leur corps, mais ils sont pas là. Ils se permettent d'être filés, ils peuvent faire la prière, mais dans leur tête, ils sont en train de penser à tous les soucis du monde. Juste quand ils prient. Après qu'ils ont fini de prier, ils ne pensent plus rien. Mais ils se disent que, d'un côté, c'est tellement plus dur de pouvoir contrôler les sentiments de mon cœur, de pouvoir faire en sorte que les soucis partent et d'être réellement joyeux. Comment je peux devenir joyeux si je n'arrive pas à être joyeux? L'histoire du peuple juif, elle est pleine de tragédies, pleine d'exils, pleine de pogroms, pleine de difficultés, pleine de pauvreté. Il y a à peine 80 ans, la Shoah, à part tout ce qui s'est passé à travers tous 3000 ans d'histoire. Et grâce à Dieu, dans notre génération, les choses se sont inversées. Si à l'époque, les gens ils mouraient de faim parce qu'il n'y avait pas à manger, aujourd'hui, les gens ils ont des problèmes de santé parce qu'ils mangent trop. Si à l'époque, les gens ils avaient assez de problèmes parce qu'ils n'avaient pas de médicaments, aujourd'hui, on a tellement de médicaments que parfois, des gens ils prennent des overdoses. Aujourd'hui, tu as tellement de choses qui ont beaucoup plus de facilité qu'il y avait à l'époque. Et ça même, c'est quelque chose qui aurait dû nous renforcer dans la simcha. Ça aurait dû nous renforcer dans la joie. Ça aurait dû faire en sorte qu'on soit totalement joyeux. Et de l'autre côté, tu vois que dans les générations précédentes, les gens étaient à 10 ou 20 à vivre dans un 10 mètres carrés, dans la même pièce. Il n'y avait pas où se séparer les parents, les enfants, les belles-filles, les gendres, les beaux-parents. Tout le monde vivait ensemble et tout le monde était heureux. Il y avait une vraie joie. Et aujourd'hui, qu'il y a une abondance, les gens ne savent plus qu'est-ce que... J'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple avec le manger. Aujourd'hui, tu vas voir un enfant qui a ou le frigidaire, il a 5 sortes de yaourt, 5 sortes de fromage, 5 sortes de pain, et il n'est pas content. Il veut la sorte qui n'est pas là. Il ne veut pas ce que tu as, ce que tu as, la 5 sortes de céréales, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut juste le céréale qui n'est pas dans la maison. Il faut juste le yaourt que tu n'as pas acheté. Il faut juste le fromage que tu n'as pas amené. Il faut juste la boisson qui n'est pas là. Alors que tu remontes, il y a à peine 30, 40 ans en arrière, même parlons en France, tu avais un fromage cachet, si tu en avais. Tu avais un produit cachet. Et les gens étaient heureux. Aujourd'hui, les gens, ils sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils disent que pourquoi c'est sûr que tu as commandé que ça et tu n'as pas commandé autre chose? Quand on parle d'un endroit comme le 19e, où tu as tellement de restaurants cachés, les gens peuvent devenir fous parfois. Et tu as des gens qui te disent non, mais il n'y a pas assez à manger. Comment c'est sûr que quelqu'un peut te dire, dans une situation où il y a une telle abondance, il ne réussit pas à être heureux? La réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'être heureux, c'est pas quelque chose qui vient d'extérieur, ça vient d'intérieur. Viens, Netanya. Je n'ai pas touché encore. Vers le Tania, la Noa Zaken. Et tout celui qui fait Chitat, tout celui qui connaît l'importance d'apprendre le Tania tous les jours. Le Tania qu'on est en train d'apprendre ces jours-ci, qui est le chapitre 27, qui est tellement riche, et qui vient et qui t'explique qu'est-ce que ça veut dire avoir parfois une tristesse. Et t'as des gens qui parfois ils ont une tristesse à l'intérieur d'eux parce qu'ils se sentent qu'ils n'ont pas fait quelque chose qu'il fallait faire comme il faut. Ils n'ont pas fait une mitzvah comme il fallait, ils n'ont pas mis les tefillines comme il fallait, ou bien quelqu'un qui s'est dit que juste pendant la prière j'ai dû répondre au téléphone, ou que le mauvais penchant il a eu dans telle et telle situation, et parfois quelqu'un devient triste. J'ai dit c'est pas digne de moi, c'est pas normal. Je suis venu pour prier, j'arrive pas à me concentrer dans la prière. Je suis venu à un cours de Torah, j'ai trois commandes qui arrivent au milieu, j'arrive pas à me concentrer. Je suis venu, je regardais personne. Je regardais personne. Des fois, j'ai dit dans la.
Dans les. Au
contraire, il vaut mieux manger. Je disais à Israël, pourquoi c'est bien de manger dans un cours, comme ça moi les gens ils parlent pas. Mais il y a des gens qui sont capables de faire les deux ensemble. Il y a des gens qui sont capables de manger et parler en même temps. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à prier, qui n'ont pas réussi à faire une mitzvah. Et après, dans la journée, ils commencent à avoir, on va dire, ce scrupule. Ils se sentent avec un complexe d'infériorité. Ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Ce matin, je me suis levé, j'ai dit, je vais faire les choses comme il faut. Je vais faire Shabbat, je vais faire Shalom Bayit. Je vais être bien avec mes enfants, je vais être bien avec ma femme. Je vais faire une mitzvah, je vais mettre tefillin, je vais donner la tzaka. Et quelque chose s'est passé comme il ne fallait pas.
Il n'a rien fait.
Pas qu'il n'a rien fait, il a fait, mais à contre-cœur. Ou il a fait avec nerf, il n'était pas content. Et il commence à être triste. Viens l'Admor Hazaken. Et l'Admor Hazaken lui dit, si tu penses que pour ça tu dois être triste, tu fais une erreur, cher ami. Tu ne devrais pas être triste.
Ouais.
On apprend ça dans l'Internet ces jours. Et l'Admor Hazaken lui dit que ça, ça vient des forces du mal. Ça ne vient pas des forces du bien qui veut que tu sois triste. Pourquoi? Comment ça se fait que pendant que tu travailles, tu as tout d'un coup un problème de mauvais sentiment de se dire, comment ça se fait que j'ai pas pensé à la prière ou j'ai pas fait ce que je devais faire? Il fait, si jamais... Quand tu étais dans la synagogue, tu n'avais que des pensées par rapport à la prière et au travail que au travail. Là, on peut dire non. Tu as un vrai problème de décalage. Mais quand tu es à la prière, pendant en train de prier, tu penses au travail. C'est tout à fait normal que quand tu es en train de travailler, tu penses à la prière. Viens, l'Admor Hazaken te dit, sache que ça, ça vient du mauvais penchant. Ça ne vient pas du bon penchant. C'est le mauvais penchant qui veut te faire tomber, pas dans l'alcool, dans l'alcoolisme, mais te faire tomber dans la tristesse. L'Admor Hazaken te dit que la tristesse, c'est la plus pire des choses à quoi quelqu'un peut tomber. Il n'y a pas d'interdiction d'être triste. Mais être triste, ça peut faire amener une personne aux plus pires des choses sur Terre.
C'est pire que l'alcool.
Ça, c'est pour ceux qui ont l'expérience. Pas tout. Viens la Torah, elle te dit pourquoi. Parce qu'à la fin, quelqu'un qui est triste, qu'est-ce qui se passe? Deux choses se passent avec lui. L'Admor Hazaken te dit c'est très simple. Tout d'abord, il te fait tomber dans la déprime. Il te montre, il t'enlève ton énergie. Il te fait avoir mal au cœur. Et il t'habille ça dans un habit de Kdusha, dans un habit de sainteté. Il te dit, qu'est-ce que tu vaux? Tu penses être quelqu'un, un grand rabbin, un grand tzaddik, un grand chassid. Tu penses que tu as mis les tefillines comme il fallait aujourd'hui. Tu penses que tu as fait Shabbat comme il fallait. Tu as fait que des bêtises. Et automatiquement, tu es loin de Dieu. Et comme ça, la personne a dit, tu sais quoi? Si c'est comme ça, à quoi ça sert de faire quelque chose? Il perd toute son énergie, il perd son enthousiasme, il perd tout ce qu'il aurait voulu faire comme bien. Et il commence à tomber dans la déprime. Deuxièmement, quand quelqu'un va vouloir faire ce qu'il faut, le mauvais penchant va s'habiller dans un habit d'amica, en lui disant, à quoi ça sert que tu fais tes mitzvot? À quoi ça sert que tu mets les tefillines aujourd'hui? À quoi ça sert que tu mets la tzaka? À quoi ça sert que tu apprends la Torah? Ça sert absolument rien. De toute façon, tu veux rien. De toute façon, tu es tellement bas de niveau spirituel. De toute façon, il n'y a aucun bien-être de ce que tu es en train de faire. Pas ton temps avec des bonnes choses, vaut mieux faire des mauvaises choses. Le mauvais penchant te prend un exemple. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas pu faire Shabbat comme il fallait. Viens, le mauvais penchant, il lui dit, à quoi ça sert d'aller maintenant au Shabbat prier, aller à la synagogue prier? De toute façon, tu n'as pas fait Shabbat comme il fallait hier soir. Tu n'as pas fait Shabbat comme il fallait ce matin, tu ne veux rien. Donc, il vaut mieux pas continuer à faire Shabbat. Et au contraire, il dit, toi, tu vas te présenter à la synagogue comme un juif qui vient faire Shabbat. Tu sais ce que tu as fait il y a une heure. Tu sais ce que tu vas faire cet après-midi, à quoi ça sert de vouloir faire Shabbat? C'est comme pour ceux qui ont l'expérience avec le diététicien et le régime, qui est très, très tendance dans nos jours. Et t'as des gens qui font attention, le docteur t'a dit, il faut pas manger tant de gâteaux, pas manger tant de choses. Et quand une fois il a mangé quelque chose qu'il fallait pas, tout d'un coup il commence à avoir ses scrupules à l'intérieur qui vient et qui lui dit, tu sais quoi? Si de toute façon t'as commencé la journée, t'as mangé ce qu'il fallait pas, continue déjà comme ça. Pourquoi tu vas t'arrêter? T'as déjà commencé la journée sur le pied gauche, continue toute la journée sur le pied gauche. Et la réalité, elle est la mauvaise, elle t'a dit que ça c'est le plus grand danger qui peut faire tomber une personne. La tristesse en soi n'est pas un péché. Mais à quoi la tristesse peut faire tomber quelqu'un? Aucun péché peut faire tomber. Parce qu'une fois que quelqu'un est triste, une fois qu'il perd sa joie de vivre, Une fois qu'il perd cette joie de vouloir faire les mitzvot, une fois qu'il perd cet enthousiasme qu'il a pour pouvoir faire n'importe quelle bonne chose, il a eu. Pas seulement il a eu, il va le faire en sorte qu'il ne fait plus rien de bien. Il commence à faire des mauvaises choses. Il commence à tomber dans la déprime, voire avoir des pensées suicidaires, voire se suicider. Et la personne est totalement anéantie. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il a commencé avec la tristesse. Alors c'est vrai que les gens ont l'habitude de dire c'est toujours bien de regarder sur la moitié du verre plein et pas la moitié du verre vide. Tout de suite, la question c'est pas la question c'est de tout faire pour pas descendre. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Les gens te disent regarde la moitié du verre plein. La Bible a donné à ça une réponse. Comment faire en sorte de toujours rester avec cet optimisme, toujours rester avec cette force de joie de vivre, toujours essayer de se focaliser sur ce qui est positif. La Bible a donné un exemple. Merveilleuse là dans les Gottes Kodesh de la vie. Dans lequel Rabbi explique le décalage qu'il peut y avoir entre un juif qui était assis dans les baraques à Auschwitz, qui ne savait pas qu'est-ce qui va se passer avec lui dans la journée, que le matin il se réveille et il dit Moderni le fanecha melecha vekayam, dans les baraques à Auschwitz, alors qu'il ne sait pas s'il sera encore vivant ce soir. Rabbi dit de l'autre côté, tu as Adam, Adam Arishon, qui est dans le paradis, que tout lui appartient, qu'il n'a absolument rien qui lui manque sur terre. Dieu, il lui dit, ce petit arbre qu'il y a sur le côté ne touche pas, il faut qu'il touche juste à cet arbre et rien d'autre. On va voir ça avec Haman, dans un peu plus d'un mois. L'Agmara nous dit 10 personnes, ils avaient tout pour être heureux, tout pour être heureux. Il y a une chose qu'ils n'avaient pas comme ils voulaient, leur vie était misérable. On va lire dans la Megillah que Haman te dit, tout ce que j'ai vaut rien. On parle de quelqu'un qui gère 127 pays, quelqu'un qui a une richesse inestimable. Quelqu'un qui a 127 pays, des milliards de personnes qui suivent son mot. Pourquoi ça vaut pas? Pourquoi ça vaut rien? Parce que ce juif, un juif, Mordechai et Yehudi ne se présentent pas à moi. Tout ça, ça vaut rien. Et qu'est-ce que la Gemara termine? La Gemara te dit, ça s'est passé avec Korach, ça s'est passé avec Bilam. C'est pas le sujet de ce soir, mais la Gemara te termine. Que tous ces gens-là, ils ont fini pas seulement par ne pas obtenir ce qu'ils voulaient, mais ce qu'ils avaient, ils ont perdu. Le fait de ne pas reconnaître le bien que Dieu fait envers toi, le fait de ne pas être heureux pour ce que tu as, automatiquement, ce que tu voudrais avoir, tu vas pas l'avoir. Enfin, mais tu dis comme ça, parmi des milliards de créatures sur terre, Dieu, il a choisi le peuple juif. Qu'on est le peuple le moins nombreux sur terre. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël, combien de remercier le bon Dieu sur les miracles qu'on voit tous les jours? Quel autre pays sur terre aurait pu recevoir des missiles à longueur de journée sur la tête, des quatre coins d'Israël, et continuer à faire la vie comme si rien n'était? Et ça, c'est ce que les gens dans le monde n'arrivent pas à comprendre. Les gens se demandent, c'est pas possible qu'un pays qui est attaqué du nord, du sud, du centre, H24, continue à vivre comme si rien n'était. Imaginons un instant sur Paris des missiles qui tombent du nord et du sud. Comment les gens te disent, comment vous faites pour exister? C'est quoi le secret du peuple juif? Qu'est-ce qui fait que Dieu vous protège à chaque instant? Comment vous faites pour surmonter cette épreuve? C'est juste, c'est ça que la Torah nous dit, que Dieu protège notre terre du début de l'année à la fin de l'année. Mais pas seulement. Pas seulement.
Grâce à qui le bouclier a été mis?
Oui, mais il y a un bouclier.
Les ingénieurs.
C'est le bon Dieu.
Mais c'est pas,
c'est ça que Dieu, il est. C'est pas, c'est ce qu'on dit dans la prière. C'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours, Magen Avraham. Dieu est le bouclier d'Avraham, Dieu protège le peuple juif. Heureusement qu'on a nos soldats, que Dieu les protège et que Dieu les fasse réussir. Mais comme on sait très bien, les gens te disent, voilà tous les jours, encore aujourd'hui, encore un qui a été tué, hier encore une. Mais logiquement parlant, une telle type de guérilla, une telle type de guerre, on aurait dû avoir des centaines de morts tous les jours. Logiquement parlant, il n'y a pas de logique comment ça se fait qu'on est tellement protégé et qu'on voit comment Dieu protège notre peuple. Pas seulement l'Israël, dans les quatre coins du monde. Deuxième chose qu'on voit, c'est comment on voit l'abondance qu'on a avec la miséricorde et bonté de Dieu, qui a fait qu'aujourd'hui on vit dans un monde où les choses se sont développées de manière illimitée. Que ça soit la médecine, que ça soit les médicaments, que ça soit la technologie. On vit dans une génération où aujourd'hui tout est à la portée de main. Qu'on peut apprendre la Torah comme en train de voir le cours en live sur vetora.fr ou n'importe quel coin dans le monde on peut s'asseoir et apprendre. Aujourd'hui les gens peuvent acheter et apprendre des livres de Torah sans limite. Des médicaments qui arrivent pour guérir les cancers qui à peine il y a 10, 15, 20 ans, on pouvait pas les guérir. Des vaccins qui sortent à niveau tous les jours. Des opérations qui aujourd'hui sont ambulatoires, que quelqu'un il rentre à l'hôpital le matin et ressort le soir, alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était des jours et des jours et des semaines d'hospitalisation et va savoir les complications. Et le plus important, c'est qu'on se rapproche du temps de la délivrance, du temps de la guéoula. C'est très bien que chaque jour qui passe, c'est un jour dans lequel on se rapproche à la venue de Mashiach. Dans la ville de Niagine, en Ukraine, vivait un chassid qui s'appelait Meir Zalman. C'était un commerçant qui craignait Dieu, qui faisait attention à la Torah et mitzvot sans limite. Il priait avec le public, il apprenait la Torah, niglait, la Torah dévoilée, la Torah cachée. Shabbat, il priait longuement, il avait l'habitude de donner des cours. Mais un jour, il a commencé à avoir des pensées en se disant, peut-être ce que je fais, c'est pas si bien que ça. Peut-être je ne donne pas assez de temps pour l'étude. Peut-être je ne donne pas assez de temps pour la Torah et les mitzvot. Et il a commencé à tomber dans la déprime. Il a commencé à tomber dans l'amertume. Il a commencé à tomber dans la tristesse. Et en étant tellement brisé, il a décidé d'aller voir son rabbi, son maître qui était le Tzemer Tzedek, le troisième rabbi de Chabad. Et il a pleuré très fort. En disant, malgré tout ce que je fais comme bonne chose, j'ai un sentiment que je ne fais pas ce qu'il faut. Le Tzemer Tzedek lui a dit, sache une chose, que tous ces sentiments que tu as, c'est des sentiments qui viennent du mauvais penchant. Tu es tombé dans le filet de l'âme animale qui fait tout pour te rendre amer. Parce que elle voit tout ce que tu fais comme bonne chose. Et elle savait que la meilleure manière de pouvoir te faire arrêter ou stopper ou changer, c'est en te rendant triste. Ton devoir, arrêter de penser à ces pensées-là. De rajouter dans la joie, et comme ça, tu vas pouvoir continuer ton service de Dieu. Alors réfléchissons un instant. Tu as un juif qui vient et qui se plaint qu'il n'est pas heureux de son service de Dieu spirituellement parlant. Je ne sais pas ce qu'il faut spirituellement parlant. Et il demande au rabbi de l'aider pour pouvoir s'en sortir de cette situation. Est-ce que tu as quelqu'un de mieux que ça? Et vient le Tzemer Tzedek et il lui dit, tu sais quoi? Ton problème, c'est que c'est les forces du mal qui essaient de tout faire pour te faire tomber. C'est les forces du mal qui veulent pas que tu continues à agir comme tu agis. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils te rendent triste. C'est vrai que dans les grands psychologues qui ont existé dans le siècle précédent, même dans notre génération, il y avait Viktor Frankl et Sigmund Freud. Tout celui qui a appris un peu et qui a lu le livre de Viktor Frankl, l'homme qui cherche un sens à sa vie, son fameux livre qui a été traduit à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en 12 langues, dont le rabbi parle plusieurs fois et le mentionne dans les God Kodesh. Le grand débat qu'il y a eu entre ces deux psychanalystes qui ont existé dans notre génération, c'était qu'un disait « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » T'es là sur terre pour profiter de la vie, faire la vie. Viktor Frankl était celui qui nous a enseigné comme quoi, même quand quelqu'un a eu des difficultés dans le passé, ou quelqu'un passe des moments difficiles, ne va pas chercher ton passé. Ne va pas t'approfondir dans le passé, il faut qu'elle soit sur le futur. La rabbi reprend cette notion, la rabbi te dit, c'est exactement ce que la Torah attend d'entre nous. On fait tous ces erreurs tous les jours. Tous les jours, on a des choses qu'on aurait voulu faire mieux et qu'on n'aurait pas réussi à les faire comme il fallait. Tu peux rester à pleurer toute la journée. Tu peux rester à te lamenter toute la journée. Aller voir un psy qui va t'expliquer pourquoi ta mère, elle est malade, ton grand-père, il est tordu, ton arrière-grand-père était encore plus fou que les trois générations précédentes, et c'est pour ça que t'es totalement fou. Et avec ça, tu payes 150 euros la consultation qui n'est pas remboursée. Et t'as des gens qui vont te dire, tu sais quoi? Perdre ton temps du matin jusqu'au soir, à te focaliser sur le passé, ça va rien changer. T'es en train de perdre du temps qui est tellement important, qui est tellement précieux, dans lequel tu peux remplir la mission que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Si toi, t'as réussi à être présent sur terre aujourd'hui, c'est parce que Dieu, il a décidé ce matin que chacun d'entre nous ici présents, le monde ne peut pas exister sans nous. Et que chacun d'entre nous a cette mission sur terre. Et avec ça, on va terminer, c'est le point du soir de ce soir qui est le 7 Adar. Comme on a dit tout à l'heure, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, c'est pas à cause de la fête de Purim. C'est à cause du fait que Aman a fait le tirage au sort. Dans son tirage au sort, qui était le pour, le Goral, il a vu que c'était le mois dans lequel est décédé Moshe. Mais la Gemara nous dit, il ne savait pas que c'était pas seulement le mois dans lequel il est décédé, c'est le mois aussi dans lequel il est né. Et quand est-ce qu'il est né? Il est né ce soir. Et puisqu'il est né ce soir, c'est le mois qui a transformé tout le mois. C'est exactement la même notion de la paracha Trouma. C'est très bien que le temple a été prêt en deux mois. On verra la semaine prochaine comme quoi Moshe a été dit qu'il y a eu tellement de dons qui sont venus qu'il fallait faire une pause. Il a demandé aux gens de ne plus ramener d'argent parce qu'il y a eu d'aïvata, il y a eu plus qu'il n'avait besoin. Quand est-ce que le temple a été inauguré? Pas au mois de Kislev, mais au mois de Nissan. Pourquoi? Viens la Gemara te dit, parce que le mois de Nissan, c'est le mois dans lequel est né Yitzhak. Et puisque c'est le jour d'anniversaire, pareil avec le Beit HaMikdash. Le temple de Salomon, la même chose, a été inauguré au mois de Tishri, parce que c'est le mois dans lequel est né Abraham. Viens la Bible t'explique, tu sais quoi? Le jour de la naissance d'une personne, c'est le jour où Dieu a décidé que ta neshama sur terre est tellement importante que le monde ne peut pas exister sans toi. Mais à part le jour de l'anniversaire que le Mazal grandit, pour autre raison, le jour d'anniversaire d'un tzaddik, le jour d'anniversaire du Moshe de la génération comme ce soir, chacun d'entre nous, qu'on a la chance que Dieu nous a donné la possibilité d'exister aujourd'hui. C'est que Dieu a décidé qu'aujourd'hui, le monde ne peut pas exister sans toi, que tu as une mission à faire. Fais-toi les choix. Tu peux te lamenter Tu peux te brûler de l'intérieur. Tu peux être mélancolique. Tu peux être triste. Tu peux être déprimé. Et tu peux te dire, même si j'ai envie de faire quelque chose de bien, j'arrive pas à le faire pour mille et une raisons. Et comme ça, le mauvais penchant, il t'a eu depuis le matin et tu fais pas ce que tu dois faire. Ou bien, tu peux dire, si Dieu, il a décidé d'avoir confiance en moi aujourd'hui. Dieu, il a décidé de me confier encore une journée aujourd'hui. Je dois danser de joie depuis le matin. Pas parce que je dois chercher une raison particulière pour me rendre joyeux. Même s'il y a quelqu'un qui t'a coupé la route, même s'il y a quelqu'un qui t'a énervé dans le chemin, au travail, peu importe où, le fait que je suis présent, le fait que je suis sur deux pieds, merci Dieu. Il y a un mois et demi, j'étais avec nos soldats sur la bande de Gaza. Comme on a l'habitude, chaque année, au travers de Seine-et-Marne, on a une mission Solidarité Israël pour nos soldats depuis 19 ans. Et cette année, on est parti juste un mois après le 7 octobre. C'était début novembre. On était dans 4 bases militaires. 4 bases militaires qui étaient sur la frontière. Vraiment qu'entre les bases militaires et Gaza, il n'y a qu'un grillage dont certains qui ont été coupés malheureusement le 7 octobre. Dans la première base où j'étais, c'était le Machane Yiftach. On a rencontré là-bas des Tatsfitaniyah, des soldats qui étaient présentes le 7 octobre dans la base et qui étaient ceux qui regardaient sur les écrans pour pouvoir voir ce qui se passe sur la frontière. Grâce à Dieu, dans cette base, tous ces soldats n'ont pas été touchés. Dans l'autre base qui était à Nachalos, malheureusement, ils ont tous été tués. Alors, je parlais avec les soldats. On parlait ensemble et, en train de parler, bien sûr, ils m'ont dit, sachez que s'il y a les alarmes, tu sais, va Adam, il faut courir, il faut rentrer dans la Migounite, il faut rentrer dans les fameux, plus, si on peut dire, bâtiments en briques, en ciment, pour se protéger, pour des missiles, etc. Et c'était comme si c'était planifié. 10 minutes après qu'on est rentré, on commence à entendre les alarmes, tu sais, va Adam, on a tous couru avec les soldats, on est partis se cacher, etc. Et moi, je parlais avec les soldats, je leur dis, est-ce que c'est une vie? Comment on vit comme ça? Comment on peut vivre comme ça? Que tous les quarts d'heure, on était sur la route, accompagné par l'armée, on entend voir les missiles tomber par terre. Je dis, comment on peut vivre comme ça? C'est quoi cette vie? Ils me disent, vraiment, je veux dire une chose. Arshav Ragour, maintenant tout va bien. Il y a un mois, ça tombait tous les minutes. Maintenant, c'est tous les quarts d'heure. Ce qu'on vient de voir, cette notion de regarder les choses de manière tellement différente. Nous, on s'inquiète. Les soldats sont là-bas en train de faire leur travail. Ils sont en train de se dire, tu sais quoi, je suis là, j'ai une mission, je dois faire ce que je dois faire aujourd'hui. Dieu me protège. En 2014, Tzouk Eitan, encore une fois une mission que Tzahal, parmi les dizaines de missions qu'ils ont faites dans la bande de Gaza. On était partis, c'était au mois d'août, pour aller visiter les soldats. Et pareil, on est partis deux jours, 36 heures. Le premier jour, on était sur la bande de Gaza avec les tanks pour distribuer les paires de tefillin comme on distribue chaque année aux soldats. Et le deuxième jour, on est partis voir les soldats blessés à Shiba Tel HaShomer, à l'hôpital au centre d'Israël. Un des soldats, il a 42 ans. Il a entendu qu'on est venu avec les paires de tefillin. Il m'a dit, vraiment, si vous me donnez une paire de tefillin, je vous promets, je vais les mettre tous les jours. Je dis, c'est quoi ton histoire? Je rentre dans la chambre, il y a sa femme et ses deux enfants assis à côté. Il a 42 ans. Il a jamais mis les tefillin depuis la bar mitzvah. Il était sur un D9, les bulldozers de Tzahal qui viennent à l'époque, en 2014, déterrer déjà les tunnels. Et malheureusement, il avait ce qu'on appelle, il avait le casque sur la tête. Et il avait pas le gilet pare-balles, il avait la protection sur son corps. Et quand il a reçu un missile du Hamas sur lui, la seule chose qui n'était pas protégée, c'était ses mains et ses pieds. Il a perdu les deux pieds. Les deux mains, elles étaient en plusieurs morceaux. Et quand je suis arrivé le voir, elle était déjà après la quatrième opération. 100% d'une oreille, il ne peut plus entendre. Et il lui restait 50% d'entendre de la deuxième oreille. Et il était dans son lit. Si vous rentrez dans le ciel du Batrabat, vous pourrez voir après ces photos. Je rentre dans sa chambre. Et il me dit, Dieu m'a gardé en vie. Et moi, dans ma tête, je me dis, faut être fou pour parler comme ça. Tu sais, t'as gardé en vie. C'est quoi cette vie? Je lui dis, c'est un soldat qui parle. Il me dit, donnez-moi une paire de tefillin, je vous promets que si je m'en sors, je sors de l'hôpital avec des prothèses sur ses pieds. Et je vais pouvoir remarcher, je mets les tefillin tous les jours. Bien sûr, je vais donner une paire de tefillin. 3 ans plus tard, je l'ai rencontré au Kotel sur des prothèses en train de marcher. Mettez cette tefillin. Et il te dit, comme quoi Dieu m'a gardé en vie, qu'est-ce que tu veux de moi? Et je peux reprendre ça avec des dizaines d'exemples. Pour tous ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est au milieu dans les hôpitaux. Parfois, on rentre dans des services, on va voir des gens qui sont en fin de vie. Combien de fois ça m'est arrivé, je suis parti voir quelqu'un que le lendemain, il n'était plus là. Que c'était la dernière mission qu'on a eue avec lui, mettre des feeling, chanter ensemble, faire une pizza ensemble, peu importe. Ces gens-là, en général, ne se plaignent pas. Ces gens-là, en général, c'est pas ceux qui viennent te dire tout va mal. Ils te disent que ça soit pas plus pire. Ils te disent, monsieur le rabbin, tout va bien. Et ils sont entubés de tous les côtés. Tu te demandes, mais comment ils peuvent te dire tout va bien? Mais quand tu parles avec un jeune ou avec qui que ce soit, homme ou femme, et je parle même pas des adolescents de parmi nous, que dès que tu leur demandes comment c'était aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, fait qu'est-ce que je vais mourir, mais qu'est-ce que j'ai mal à la tête, mais qu'est-ce que je suis fatigué. Toujours avec quelque chose, un point, comme si tu dis c'est la fin du monde. Alors que tout va bien. Ça, c'est cette notion du mois d'Adar. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Rabbi écrit dans cette fameuse lettre par rapport à la comparaison de ce juif à Auschwitz ou Adam, ça dépend de chacun d'entre nous où on veut se situer. Tu as le choix d'être dans la misère, tu as le choix d'être dans la tristesse, tu as le choix de te dire tout va mal, et tu as le choix de te dire que malgré toutes les difficultés, tout va bien. Je terminerai avec une lettre. Rabbi a écrit cette lettre dans les Gottes Kodesh, la lettre 4090. Un juif qui a écrit à Rabbi la chose suivante. Je suis marié, j'ai deux enfants, mais ma vie, elle est mauvaise. Ma vie, elle est pourrie. Toute ma vie, elle est mauvaise. Ça, c'est comment il a écrit. Le Rabbi reprend sa lettre. En général, le Rabbi répondait à chaque fois avec une phrase, deux phrases. Là, le Rabbi lui répond deux pages. Et le Rabbi lui dit comme ça. Tu commences ta lettre avec une phrase, et juste après, tu te contredis. Tu commences à dire, t'es marié et t'as deux enfants. Et juste après, tu dis, toute ma vie, elle est mauvaise. Et tu sais combien de dizaines de milliers de personnes sur Terre cherchent à pouvoir trouver leur âme sœur et n'ont pas encore trouvé. Je vais continuer en lui disant, tu sais combien de dizaines de milliers de personnes cherchent à avoir un enfant? Et toi, apparemment, tu as eu deux enfants et de manière naturelle, tu n'as pas fait de grands exploits pour les avoir. Et tu oses dire que ta vie, elle est mauvaise? Je vais continuer en lui disant, peut-être que les soucis de santé que tu as et les soucis de Parnassa, c'est parce que tu n'es pas Makirtov, tu ne reconnais pas le bien que Dieu a fait avec toi. Lui dit, je te demande une chose. Arrête d'être Kafui Tova, ne sois pas ingrat. Sois remercié Dieu pour le bien qu'il fait envers toi. Rabbi le ramène le Zohar, Rabbi le ramène ça des centaines de fois de la parasha Tetzaveh, la parasha de la semaine prochaine, page 182b. Dans le Zohar, c'est écrit que Dieu ira agir envers nous sur terre de la même manière comment nous on agit envers lui. Qui veut dire? Si quelqu'un, tout va bien, il trouve le moyen de se plaindre. Mon Dieu dit, ah, tu veux avoir de quoi te plaindre? Je vais te donner de quoi te plaindre. Si quelqu'un, même s'il a des soucis, trouve le moyen de remercier, le bon Dieu dit, avec tout ce qu'il a comme soucis, il trouve le moyen d'être heureux, je m'assurerai qu'il soit heureux. Chers amis, que Dieu fasse que ce mois d'Adar, ça soit un mois de joie réelle, tangible, avec nos yeux. Que tous nos soldats soient toujours en bonne santé, qu'ils reviennent en bonne santé, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Que les otages soient libérés très rapidement, que les blessés et tous les malades guérissent, et que Dieu fasse qu'on puisse partager que de bonnes nouvelles. On sait que le mois d'Adar, c'est aussi pourquoi il est proche de Nissan, parce que Mismar, Geoula, les Geoula, on a rapproché la Geoula du mois d'Adar à la Geoula du mois de Nissan, du mois de Pessah. Que Dieu fasse que ce soit un mois de joie tangible pour tout le peuple juif, qu'on puisse voir la venue de Mashiach très rapidement. Le cours sera replay sur retora.fr. Très bonne soirée à tous.